nous allons témoigner, quoi? Eh bien, voilà, nous témoignons que nous avons fait tout ce que nous avons pu pour empêcher ton peuple d'Israël de pratiquer sa loi. Alors Dieu se tourne vers ses juifs, il a dit, mes agneaux, on l'a échappé d'elle. Et c'est la première phase du miracle. Et tout ceci est très important. Vous voyez que l'égoïsme sert à quelque chose. Témoignage au jugement dernier. Bon, là-dessus, les commentaires développent. Sauf ça, on va juger Israël d'après la loi, avec circonstances atténuantes. Les goïms témoignent qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont inventé toutes les stratégies culturelles, spirituelles, théologiques, politiques et possibles et imaginables pour nous détourner de la Torah. Comment on l'a gardée? Personne ne sait. Comment on l'a gardée? On l'a gardée avec circonstances atténuantes. Et alors, va se poser une question, et comment juger les nations? La réponse, très importante, les nations seront jugées d'après leurs juifs. Vous avez compris? Alors il y a des juifs qui sont très embêtés au jugement dernier. Par exemple, les juifs allemands. Quand Dieu demandera aux juifs allemands, est-ce que j'ai bien fait de créer ça? Ça qui s'est passé, okay? Je ne voudrais pas être à la place des juifs allemands, mais en plus je m'appelle Ashkenaz. Les juifs français. Bon, là nous sommes très chevrins, les juifs français. Bon, vous voyez, c'est pas simple cette relation à l'universel. Et dans quel sens? Ça veut dire que Dieu va demander aux juifs de juger leur goy. C'est clair? Parce que vous savez qu'on a les goy qu'on mérite, puisque les goy ont les juifs qui méritent. Il y a, malgré tout, une relation de solidarité entre les Umot HaOlam et les Juifs. Les Juifs sont jugés d'après la Torah, mais avec toutes les circonstances atténuantes et exténuantes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Et puis les Goïms seront jugés d'après la Juive. Et c'est ce qu'il faudrait expliquer au gouvernement français, qui a tout intérêt à envoyer ses Juifs en Israël pour sauver la France. Tartez match pas. On peut revenir. In extremis, il y a eu une petite alia de France pour qu'elle soit présente au jugement dernier par ses juifs. Et ça, c'est la première partie du Midrash. La deuxième partie, c'est que la vie nous dit après tout. Pourquoi Israël a accepté la Torah? C'est parce que tu les as obligés. Et ça renvoie à un autre enseignement. Qu'au Sinaï, Dieu a renversé la montagne sur Israël et lui a dit, ou tu acceptes la Torah, c'est bien, sinon là sera ta tombe, ta fin. C'est un sujet pour lui-même. Simplement, je vous cite très rapidement l'explication du Maharal. La Torah n'est imposée qu'à celui qui était prêt à l'accepter librement. Et pour pas qu'il change d'avis, on va lui imposer. Mais c'était quand il voulait l'accepter. C'est clair. C'est exactement comme les fiançailles et le mariage. On ne fait un mariage qu'à des fiancés. Les fiancés, c'est quoi? C'est librement qu'ils se sont choisis. Oui, mais librement, ils peuvent se déchoisir. C'est dommage. Alors, au mariage, on veut. Est-ce que c'est bien ça? Elle veut dire, c'est pas n'importe qui et qu'on va obliger à recevoir la Torah. C'est à celui qui est prêt à la recevoir de lui-même. La preuve, c'est que sachant bien ce qui les attendait, Israël sortant d'Égypte est arrivé au Sinaï. Et au Sinaï, il savait très bien ce qu'il attendait. Okay? Et donc le mérite, c'était d'arriver au Sinaï. Mais une fois arrivé au Sinaï, la récompense du mérite, c'est qu'on n'est plus libre. Le 50e jour, c'est-à-dire après la sortie d'Égypte, le 6 Sivan, Israël n'était plus libre d'accepter ou pas la Torah. Dieu s'est révélé. Et quand Dieu se révèle, la liberté finit. Imaginez, vous comprenez l'idée. Okay? Bon, quand on parle de liberté, c'est parce que Dieu se cache. Mais s'il se révèle, qui va dire oui ou non? Je pense que c'est clair. Et par conséquent, le jour du 6 Sivan, il n'y avait pas du tout de liberté. Mais c'est la récompense du choix libre qu'il y a eu pendant les 49 jours qui les a amenés au Sinaï. C'est clair, j'espère. Le Maharal développe ça de façon très importante, mais c'est l'idée principale. Alors, l'égoïsme dit ceci. C'est injuste. Israël a accepté la Torah parce que tu la lui as imposée. C'est toi qui as décidé que ce Cheikh Bahabanou Nicolas Amin. Alors, viole-nous un peu comme ça. impose-nous ta Torah, tu verras qu'on l'accepte. On efface tout, on recommence. Alors Dieu dit, on efface pas tout, on recommence. J'ai une mitzvah, une petite mitzvah, je vais vous la donner. Si vous l'acceptez et vous la pratiquez, c'est bien, vous êtes sauvés avec les Juifs. Sinon, on verra plus. Quelle mitzvah, la soukha? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en résumé, en comprimé, toute l'expérience de l'histoire d'Israël, la galout, la geoula, pour entrer dans le monde de la Hashgaha, c'est-à-dire l'aliénation, la libération pour la découverte de la providence. C'est clair jusque-là? C'est schématique, mais je pense que vous comprenez. C'est ça la soukha. Si vous pratiquez la soukha, eh bien vous serez sauvé avec les Juifs. Qu'est-ce qui se passe, dit la Gemara? C'est qu'ils acceptent la soukha. Imaginez, club méditerranéen. Le camp de vacances. Ils acceptent la soukha. Et alors Dieu fait chauffer le soleil, le fait sortir de son orbite, et ça chauffe tellement qu'ils ne peuvent plus tenir le coup, et ils quittent la soukha en claquant la porte de la soukha. Qu'est-ce que c'est cette histoire de fou, hein? Alors Dieu dit, voyez, vous avez échoué. La Gemara intervient. Comment ils ont échoué? Est-ce que Dieu joue avec ces créatures? La halakha dit que s'il fait trop chaud ou s'il pleut, on a le droit de sortir de la soukha. Alors quelle fait ils ont fait? Sinon, ils ont claqué la porte. Quelle est cette différence? Vous avez compris? Ça veut dire que tout le monde sait que la Torah, c'est difficile. Oui, il fait chaud, je crois, vous sentez de la soukha peut-être. Mais on regrette, quand on n'arrive pas à porter la Torah, et on le regrette. Ça, c'est les goyim est pessimiste. La Torah est impraticable. Ils claquent la porte. Alors ils ont échoué sur la soukha. Oui, c'est clair. Donc, on voit par ces midrashim, que, et d'ailleurs, c'est la théologie, finalement, c'est la théologie la plus profonde, que le salut ne vient pas par la pratique de la Torah, parce que c'est pas possible, parce que c'est trop difficile. Et je crois qu'au fond, il faut être juif pour arriver à percevoir cela suffisamment profondément. Toute la halakha, c'est une stratégie de la Torah Shebaalpé pour faire que la Torah, qui est la Torah du monde parfait, soit praticable quand même sur terre. C'est clair. En tout cas, quand il pleut, on sort de la soukha en disant au voisin, tu vas en être obligé. Par exemple, là, quand même. C'est clair. J'ai compris, ça. Et ça, c'est la rencontre, donc, entre le cycle des régalines, des fêtes de pèlerinage, qui concerne l'histoire d'Israël, et c'est à Soukhot qu'on rencontre le sort de l'universel humain. Peut-être que, je n'y ai pas tellement réfléchi, donc je dis ça comme ça en passant, peut-être que c'est vrai que le signe du déclin d'une civilisation, c'est le problème des loisirs. Ça se relie avec la question du Shabbat, mais ça se relie d'une façon générale à la question de Soukhot. C'est-à-dire, lorsqu'une civilisation arrive à avoir un problème des loisirs, c'est qu'elle a échoué. Je vais vous citer quelque chose, un souvenir qui me revient de mes études. J'étais en travaux pratiques de sociologie dans la Sorbonne, que Dieu ait son âme, de la Et on avait étudié en travaux pratiques une enquête faite à la fin du siècle dernier par la mairie de Chicago, qui avait posé un problème à des sociologues et à des théologiens. Un problème que la mairie n'arrivait pas à résoudre. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des minorités, il y a encore, mais enfin, c'est surtout le siècle dernier, il y avait des minorités d'origine dans la société américaine. Les Italiens, les Irlandais, les Polonais, les Juifs. Alors le problème qu'avait la mairie, c'est que le dimanche, la police avait le plus de travail avec les Polonais, les Italiens, les Irlandais, mais que le Shabbat, la police se reposait avec les Juifs. J'ai compris la nature du problème. C'est le problème des loisirs, c'est-à-dire le jour du loisir. Vous savez qu'il y a une Gemara qui dit qu'un goy qui fait Shabbat est passible de mort. Pourquoi? Parce qu'il se met en danger de mort. C'est-à-dire celui qui n'a pas accepté la loi morale et qui ne travaille pas, le fait de ne pas travailler et de ne pas avoir la loi morale fait de lui ce qui arrive le jour du repos sur les routes. Vous avez compris le problème? C'est-à-dire que c'est lui-même qui se met en danger de mort. Chayav mita, dit la Gemara. Et alors, on avait résolu ce problème entre vos pratiquants, je vous dis, là oui. C'est que, à un certain moment du développement d'une société, apparaît ce problème, quoi faire du temps de repos, ce qu'ils appellent le temps mort. C'est d'ailleurs la différence entre la soukha et le club méditerranéen. Il y a un deuxième biais par lequel le cycle de Tishri et le cycle qui commence à Nissan vont se rencontrer, c'est au Sharm Araba à proprement parler. Alors là, je vous rappelle brièvement ce que vous savez déjà d'autre part, c'est que chaque société est divisée en trois groupes par rapport au jugement. Ceux qui peuvent supporter le jugement dans sa mesure stricte, qu'on appelle la Midatadin, on confond vraiment à la lettre le livre de la loi et le livre des consciences, et ça coïncide. Ça, c'est un tzaddik. Il y en a très peu. Alors, ceux-là sont sauvés à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement d'après la Midat Ad-Din, stricte. Les tzaddikim sortent, comme on dit, yotim à Rosh Hashanah. Sortent indemnes, comme on dit, quittent à Rosh Hashanah. Il y a ce qu'on appelle les benonim. Ça veut dire qu'ils sont à la fois tzaddik et racha. Benoni, ça veut dire moyen. Benoni, en hébreu. Je voudrais vous citer quelque chose que j'ai entendu de mon frère à Paris, mon frère Joël, pas Daniel, qui est élève, et qui est un très grave, un grand carmélien. Vous savez qu'il y a un temps qui s'appelle le Benoni. Le temps présent s'appelle le Benoni en grammaire. Okay? Alors, les Benoni, c'est ceux qui vivent aujourd'hui. Et s'il y a une mitzvah qui se présente, eh bien pourquoi pas. Mais une ravera, pourquoi pas. Alors c'est ceux-là sont jugés le jour de Kippour par la Midat Arachamim. La Midat Arachamim, c'est quoi? C'est un compromis entre la Midat Adin et la Midat Achesed. C'est Pshara. C'est le mot, le terme qu'emploie le Midrash. Pshara. La première fois, je crois que vous avez étudié cela sur un des séminaires sur la Tshuva. La première fois que le Midrash parle de la Tshuva, c'est la Tshuva de Caïn. Quand Caïn a fait Tshuva, que Adam Arishon l'a rencontré, il lui a demandé qu'est-ce qu'il arrive dans ton jugement. Il a dit, ben, je suis arrivé à une pshara, j'ai fait Tshuva. Qu'est-ce qu'une pshara? C'est un compromis. Le mot de compromis est assez négatif en français. On va essayer de le comprendre directement dans son sens plein en hébreu. C'est la Midat Adin. C'est la rigueur absolue. La Midat Hesed, c'est la grâce, la charité. On pardonne a priori et quels que soient les attendus de la faute. Et le monde ne peut reposer ni sur Midat Hesed, ni sur Midat Adin. S'il ne repose que sur Midat Adin, à la première faute, on est condamné, perdu. Il ne peut pas non plus reposer sur Midat Hesed parce que toutes les fautes seraient pardonnées. C'est un monde invivable. Vous avez en tête le Midrashim qui parle de ça, que Dieu avait voulu créer le monde sur la Midat Adin, il a vu qu'il ne tiendrait pas, alors il a voulu le créer sur la Midat Hesed, il a vu qu'il ne tiendrait pas, finalement il l'a créé sur la Midat Arachamim, qui est un compromis entre Hesed et Din. Le génie hébraïque a vu dans ce compromis la vérité morale elle-même. C'est pourquoi Rachamim s'appelle Emet. Ça ne veut pas dire que la chesed, la charité totale, gratuite, ne soit pas une vraie valeur, mais ce n'est pas la vérité morale. Ça ne veut pas dire que la rigueur absolue ne soit pas une vraie valeur, mais ce n'est pas la vérité morale. La vérité morale, c'est la Midat Arachamim. C'est clair? Alors que ça, les Benonim sont jugés par la Midat Arachamim, c'est le jour de Kippour. Vous remarquerez à quel point ce mot de Rachamim revient dans la liturgie de Kippour, surtout en Moussaf. Et puis finalement, la troisième catégorie, c'est l'Erchaïm. De la même manière qu'il y a très peu de tzadikim et gmurim, il y a très peu d'Erchaïm gmurim, mais il y en a. Donc. Alors ceux-là sont jugés par la Midat Hesed quand à Rosh Hashanah Rabba. Donc Rosh Hashanah Rabba, qui est l'achèvement du site de Tishri, et c'est l'achèvement du site qui a commencé à Rosh Hashanah Rabba. Mais donc il y a un jour de Sukkot qui relie totalement les deux sites, c'est Rosh Hashanah Rabba. Je pense que c'est suffisamment clair. Or, pour quelle raison précisément on lisait dans les tikkun de Rosh Hashanah Rabbah, le livre d'Epsom, parce que vous savez, dans les 7 jours de la Sukkah, vous recevrez un invité chaque jour. Ça correspond au fondateur de l'identité d'Israël, Béhouch-Bizim. C'est un mot araméen, mais que vous retrouvez dans le mot français un hôte. Vous savez du latin. Béhouch-Bizim, c'est l'hospice. Et alors, le premier jour c'est Abraham, le deuxième jour c'est Yitzhak, le troisième jour c'est Yaakov, le quatrième jour c'est Moshe, le cinquième jour Aaron, le sixième jour Yosef, le septième jour c'est David, qui se relie à la notion de Malchut, qui est déjà l'annonce du temps messianique. Et puis le huitième jour, Shemunicha Atzeret, c'est Shlomo HaMelech, la voix Salomon, on revient par là à l'Ecclésiaste. Voilà, j'ai un peu bouclé cette introduction. C'est-à-dire les deux cycles que j'ai indiqués tout à l'heure se rencontrent, culminent le jour de Rosh Hashanah qui nous mène à Shmunicha Ava Atzeret, qui est la clôture générale et qui, elle, va devenir Simchat Torah. Alors très rapidement, la relation entre Simchat Torah et Shavuot. Je vais essayer de l'expliquer très rapidement. Et je viens d'étudier Mahamar du Rav Adari, qui est le rocher Shibata Kotel, qui rassemblait toute une série de références concernant un jour de la liturgie de Tishri dont je n'ai pas encore parlé, et qui est la veille de Kippour, Erev Yom HaKippour, le 9 Tishri. Le 9 Tishri, c'est un jour de fête, comme vous savez. Mais c'est un jour de fête qui est un jour de jeûne, je ne sais pas comment vous expliquer ça. On jeûne en festoyant. Parce qu'il y a deux versets dans la Torah que le jour de Kippour, c'est le 10 Tishri, il y a Enité, mais je peux faire, mais vous humilierez vos personnes, après, ça va faire bien Enité, vous affligerez vos personnes. Et puis il y a aussi le 9e jour, Enité, mais je peux faire. Alors la tradition a décidé, la Torah Shabbat a décidé, que le 10e jour, l'expiation se fait par le jeûne, par le fait qu'on ne mange pas, et le 9e jour de Tishri, la veille de Kippour, en mangeant. C'est beaucoup plus difficile de jeûner en mangeant que de jeûner en ne mangeant pas. Et c'est pourquoi vous savez déjà que c'est un jour où on ne doit pas s'arrêter de manger, et en fait, ça se pratique de façon un peu différente suivant les communautés. Dans certaines communautés, on fait 7 repas dans la journée, dans certaines communautés, on a l'habitude de ne jamais passer un quart d'heure sans avoir mangé quelque chose, et au milieu de la journée, on fait un repas de 7 plats. Et puis, dans d'autres, autrement. Enfin, dans tous les cas, c'est connu dans tous les pays. Et simplement quelques mots sur ce principe, que ce réunion du 9e jour, où on jeûne en mangeant, est plus difficile que... Pourquoi ? Parce que finalement, le jeûne, où on ne mange pas, la vertu et la nature coïncident. Alors que dans le jeûne où on mange, ça s'oppose, la vertu et la nature s'opposent. Par conséquent, c'est beaucoup plus difficile. Je dirais d'ailleurs aussi de façon inverse. Quand la vertu va dans le sens de la tendance naturelle, il y a ambiguïté. À quoi j'obéis ? À ma tendance naturelle ou à ma nature ? Est-ce que c'est à ma tendance naturelle ou à ma vertu, okay? Et donc c'est beaucoup plus difficile. C'est tout le problème de la pratique des mitzvot en général. Il y a un principe de la Gemara qui est très important. Mitzvot lo nitnu lehana. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour la jouissance. Ils ont été donnés pour la joie, qui est tout autre chose. La simcha de la mitzvah. Mais la jouissance, c'est interdit de se servir de la mitzvah comme d'une jouissance. Hana. En français, c'est difficile de décaler les deux termes, hein? Mais en hébreu, c'est très clair. Hana, c'est une chose, et puis Simcha, c'est une autre. Et par exemple, l'exemple que j'ai l'habitude de donner, c'est le fait que le Shabbat, on a l'habitude de manger du poisson. Et pourquoi ? Pour obéir à la mitzvah, que le Shabbat, on mange du poisson, ça c'est le goût de la mitzvah, ou c'est pour le goût du poisson ? Et ça ne peut pas être sans le goût du poisson. Et alors, vous voyez donc la difficulté. Le fait de goûter la mitzvah, même une ambiguïté, comme j'ai dit, et ce n'est que au bout d'un très long effort d'épuration de la vertu que la vertu est authentique, parce que pendant longtemps elle est mélangée de jouissance. Je pense que c'est clair.
Pour ceux qui n'aiment pas le poisson, avec la mise
là. Est-ce qu'il y a des juifs qui n'aiment pas le poisson? Même celui que leur mère a fait. Bon, ils prennent des autres poissons. Et, alors là, effectivement, ils sont aidés. Mais si on ils n'aiment pas, on leur enlève un poisson. Bon, tout ceci me mène finalement à aborder la question du livre de l'Ecclésiaste. Alors nous allons lire ensemble les premiers versets. Et à propos des premiers versets, je vous citerai quelques midrashim qu'on vous a donnés sur ces pages. Et ensuite nous lirons le dernier verset et aussi quelques midrashim à ce sujet. Cette fois, je crois que je peux m'asseoir, vous avez les textes. Alors, vous avez des tanards sous les yeux, ceux qui en veulent, en voilà encore un. Mais de toute façon, je vais lire simultanément en hébreu et en français. Alors, le texte commence ainsi. Divré Kohelet ben David, Meler Birushalayim. Parole de Kohelet. L'Ecclésiaste, ça veut dire, je traduis d'abord étymologiquement. En français, le mot de ecclésiaste, ça veut dire l'homme de la ecclésia. Ecclésia, c'est le kahal en hébreu. C'est devenu l'église en français, peut-être, mais le sens latin primitif, c'est le kahal, ecclésia. Je crois que ça vient du grec d'ailleurs. Ça vient du grec. Vous avez un autre livre dans les apocryphes qui s'appelle l'ecclésiastique. Ça, c'est pas cachère. Mais l'ecclésiaste, c'est Kohelet. C'est-à-dire celui qui forme le kahal. Vous verrez, ceux qui étudient ce texte, que le mot de Kohelet commande parfois le verbe masculin ou parfois le verbe féminin. Mais dans tous les cas, le sens est le même. C'est la capacité de faire l'unité de la cité, l'unité de la société. Deux hommes seulement ont eu cette capacité, c'est Moïse et Salomon. C'est-à-dire, Vayakhel Moshe et Moïse a rassemblé l'assemblée du peuple. Là, je vous cite des versets qui reviennent souvent sous différentes formes. Cette force du, comment on peut dire en hébreu, du Mekahel, le fait de créer la cohérence de l'assemblée, le Kahal, et d'autre part, le roi Salomon. On a remarqué que le règne du roi Salomon est le seul pendant lequel il n'y a pas eu de guerre dans le monde entier. La Midrash dit comme ça, dans le monde entier, c'est un sujet d'étude, bien entendu, de vérifier avec les annales des autres peuples, mais remarquez à quel point ça se relie avec le sens de son nom. Ça s'appelle Shlomo, c'est-à-dire l'homme de la paix. En tout cas, évidemment, en Israël, il n'y a pas eu de guerre pendant tout le temps du règne de Salomon. Mais ce qui est important à signaler, c'est qu'ici, on ne lui donne pas son nom. On l'appelle Kohelet, et on l'appelle Ben David. Alors, ceci est un thème pour lui-même. Le premier homme qui a eu le privilège d'être nommé Ben David, c'est le roi Salomon. Donc c'est une figure messianique. C'est une figure du huitième jour. C'est bien clair jusque-là? Alors j'avance. Meler Birushalayim, roi de Jérusalem. Et déjà, roi à Jérusalem. Et déjà, ça me donne un point d'appui, cette expression, pour aborder, parce que je vois que le temps avance, pour aborder très rapidement le thème principal. Ce texte, vous l'avez lu, il y a des centaines de livres qui ont été écrits sur l'Ecclésiaste. Si vous allez dans une bibliothèque spécialisée théologique ou philosophique, vous verrez toutes les thèses, surtout chez les chrétiens, surtout chez les protestants, parce que c'est un livre très pessimiste, apparemment. Et ça va un peu dans le sens, un peu beaucoup même, de la théologie protestante, le pessimisme-là. D'énormément de thèses ont été faites. Et, en tout cas, de toutes celles que j'ai pu lire, ou avoir connaissance, toutes sont d'accord sur un point que je voudrais critiquer au nom des Midrashim qu'on va lire, que c'est un livre pessimiste, et alors la question est, cette inadvertance des rabbins d'avoir laissé un livre pareil dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, Et alors finalement, on se base sur un texte de la Gemara qui avait au moins un verset, qui a sauvé le livre, c'est le dernier verset que vous avez en fin de page là, qui est comme Maaser Elohim Yavid et Mishpat, car toute œuvre, tout acte, Dieu le fera venir en jugement. Mais à quel point nous sommes en plein dans la Chanaraba, Alcool et Alam, même avec toutes les implications cachées, Imtov, Imra, que ce soit en bien ou en mal, c'est l'idée du jugement en plein. Il y a un jugement dernier. Alors on a sauvé tout ce livre à cause du verset. Regardez à quel point ça ne tient pas, cet argument. Je veux dire, ce livre, mais c'est un livre philosophique, pessimiste, et on cherche, on s'évertue à chercher des analogies avec les philosophies grecques de l'époque, et on les trouve. D'une époque que les historiens fixent plus ou moins arbitrairement, mais peu importe. On trouve des thèmes analogues dans les philosophies pessimistes. Et qu'on a sauvé ce livre à cause de ce verset, du verset précédent d'ailleurs. Le verset précédent qui dit « Sauf d'avoir la colnichma, fin de toute chose, tout étant entendu, et Elohim Yerav et Minotab Shemot qui zekola Adam. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est cela le tout de l'homme. » Nous reviendrons tout à l'heure sur ces versets-là. Pourquoi ça ne tient pas? Parce que, à cause de ces deux versets-là, on va laisser, je ne sais pas combien, 8 chapitres, entiers de pessimisme, on va les lire quand même, ces 8 chapitres. Il n'y a qu'à prendre ces versets et les mettre dans un psaume. D'ailleurs, ils sont dans un psaume d'autre part. Vous comprenez, enfin, sous une autre forme, ils y sont quand même. Par conséquent, ce n'est pas du tout compréhensible, cette espèce de thèse, que c'est vraiment un livre pessimiste, mais que, à la rigueur, on l'a mis dans la Bible, et dans la Bible que tout le monde peut ouvrir, on aurait pu le cacher dans la tradition orale, la gnisa de la tradition orale, mais à cause de ce verset-là. L'argument n'est pas suffisamment fort. En réalité, je vous donne tout de suite l'explication que donne la tradition. Le roi Salomon discute avec les pessimistes. Attendez, je me lève pour que ça soit plus clair. C'est pas qu'il adopte le point de vue de la philosophie pessimiste, que tout est vanité. Tout est cyclique, tout revient. On lira, si vous voulez, par exemple, vous avez en tête le premier verset, cette vision absolument stoïcienne, de l'histoire du monde. Maïtron la Adam, il n'y a pas de surplus, on passe sa vie à la perdre. Vous voyez à peu près cette idée de d'homme. C'est très frappant d'ailleurs, j'y pense, en passant, c'est que dans les civilisations occidentales, c'est un peu le temps de l'adolescence, ce pessimisme-là. Alors que pour la tradition, Shlomo HaMelech a écrit Shir HaShirim quand il était adolescent, il était normal. Et quand à l'âge mûr, il a écrit les proverbes, et dans sa vieillesse, il a écrit l'Ecclésiaste. Et en réalité, donc, il va discuter, il est en vicoire, comme on dit en français, en opposition avec la philosophie pessimiste. Ce n'est pas qu'il adopte ces postulats, et puis après, un peu de cosmétique, comme on dit, il a mis deux versets de piété habituelle, pas du tout. Il va discuter avec le philosophe pessimiste par le postulat suivant. Prenons au sérieux ce que tu dis. Si nous prenons au sérieux ce que tu dis, que tout est vanité, alors tout est vraiment vanité à un point tel que tu ne serais même pas là pour le dire. Ça, c'est moi qui ajoute. Mais prends conscience que si vraiment c'était vanité, ce serait vraiment absolument vanité. Et moi, Salomon, je peux te le démontrer, parce que j'ai eu l'expérience de toutes les valeurs, et je peux te démontrer que s'il n'y a pas aussi la Torah, c'est moi qui ajoute la Torah, s'il n'y a pas aussi la Torah et ce qu'elle annonce, alors tout est vraiment vanité, un point. Donc toi, philosophe pessimiste, tu ne seras jamais quoi. Et c'est pourquoi vous avez en 7 grands paragraphes, à travers les 8 chapitres, c'est bien 8 chapitres que vous savez, alors, vous avez, à travers 7 moments, l'Ecclésiaste va prendre toutes les hypothèses possibles. Toutes les vanités, sauf peut-être la richesse. Il va démontrer que même la richesse, c'est vanité. Toute vanité, vous savez la différence qu'il y a entre un dollar et un shekel. Un dollar. On veut être riche en ce qui est vanité. Donc, même la richesse est vanité. Vous allez voir comment ça se rattache à roi à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est? Le même moteur, hein? C'est un camion, à toi. Ou bien, alors il dit, j'ai expérimenté cela, et même ça, c'est rêvé. On a commencé, pas dans l'ordre, mais on a commencé par la richesse. Même ça, c'est rêvé. Qui peut dire ça? Celui qui a vraiment été riche peut dire, vous savez, quelqu'un qui dit, certes, sur la vanité de la richesse, alors qu'il n'a jamais été riche, ça n'a pas de base. Tout cela, le Midrash nous dit, c'est dans Meler Birushalayim. Il a été roi à Jérusalem, il a eu toutes les valeurs. Il était riche. Bon, deuxième hypothèse, tout est vanité, sauf la sagesse. Qui était plus sage que Salomon? Je schématise, mais c'est clair, pas la peine de passer du temps là-dessus. Et ça, quand Salomon dit, même la sagesse, c'est vanité, si tout est vanité, s'il manque cette clause dont on a parlé, au-dessous du soleil, tout est vanité, mais sur le soleil, tachat hashemet, au-dessous, dans les marlas, dit le Midrash. Il s'agit de la Torah. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette expression. Alors même la sagesse, c'est vanité. Parce que finalement, toutes les philosophies pessimistes se réservent un quant à soi. Tout est vanité, sauf telle vertu, sauf telle valeur. Par exemple, le stoïcisme. Eh bien, le stoïcisme, tout est vanité, sauf la stoïcité, sauf le fait d'être stoïque. Moi, j'ai l'habitude de citer une anecdote que j'ai vécue. J'ai eu un de mes professeurs de philosophie, qui était existentialiste. Et il était capable de nous convertir à l'existentialisme. Tout est absurde. Tout est absurde. Vous savez, quand un professeur de philosophie sait parler, il sait parler. Surtout quand il parle de l'absurde. Et alors, un jour, à la sortie du cours, on était en faculté. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est brillant. Et ça fait des suicides, à la longue, parce que ces jeunes philosophes, ils y croient. Ils démontrent ça de façon. Un jour, à la sortie du cours, j'ai surpris une conversation. Il parlait avec un collègue, il disait, non, mais j'ai pas le temps maintenant, je dois aller chercher mon chèque. C'est-à-dire, tout est absurde, sauf le fait que le philosophe va chercher son chèque. À l'abri du chèque, tout est absurde. C'est clair. Ça démystifie tout d'un coup. Oui, mais quand même, le ministère des Finances en France, c'est pas le même qu'ici. Et alors, deuxième hypothèse, la sagesse. Eh bien, même la sagesse, c'est vanité. Si, on verra quelle si. Et puis, vous pouvez imaginer par vous-même toutes les hypothèses de repli que l'on peut présenter dans ce problème. La gloire. Il a été roi. Le roi peut dire la gloire, si transit, gloria mundi, c'est comme ça qu'on m'a dit. Donc, etc. En fait, donc je reviens sur le raisonnement. Si vraiment il faut admettre que le monde soit vanité, alors il est vanité vraiment. Et si le monde est vanité vraiment, on est perdu. Et donc, même, si vous voulez, cette position de la philosophie pessimiste perd ses bases. Je ne sais pas si j'arrive à éclaircir cela. Et c'est pourquoi, du dedans de ce doute absolu par méthode de la vanité du monde, l'Ecclésiaste fait surgir un optimisme radical. Non, tout a un sens, tout est jugé. Voilà donc le thème que nous allons approfondir à travers le thème. C'est clair jusqu'à là? Bon. Alors je vais me baser sur un premier midrash que vous avez là. Si vous allez voir comment est la page, mais regardez sur votre page ici. Vous avez le deuxième verset sur la page. Avel Avalim, Amar Kohelet, Avel Avalim, Akol Avel. Ensuite vous avez en caractère Rashi le commentaire de Rashi. Bon, c'est pas ce Rashi-là qu'on va étudier d'ailleurs. Puis vous avez Meler Birushalayim. Après, vous avez un Midrash qui commence par la lettre Bet, Akol, Havel, Havalim. J'explique d'abord les termes. Vous mettez le verset au tableau. Regardez, c'est un singulier. Je termine là-bas. Voilà ce qu'indique le mirage. Avec ça fait un avalim, c'est au minimum 2. C'est répété avec l'avalim une deuxième fois. Ça fait donc 3 et 3. Et à Kohavel, ça fait 7. 3 et 3, 6 et 5. Okay. Donc il y a allusion à 7 vanités différentes. Vous voyez jusque-là ? Bon. Alors prenons. Le verset est clair. Avel Avalim, vanité des vanités, ça fait 3 vanités. Avel 1, Avalim au moins 2. C'est répété, Avel Avalim, encore 3, ça fait 6. À Kol Avel, toutes les vanités, ça fait 7. Alors le Midrash dit ceci. Est-ce que je fais demander une minute ? Dit ceci, Tania, on enseigne, David Amar, le roi David avait dit dans les psaumes, Adam la révèle la main, c'est le psaume 144, l'homme ressemble à un souffle, en hébreu le mot de révèle signifie souffle, et c'est devenu au niveau abstrait l'idée de vanité, mais d'abord révèle comme révélé. C'est le souffle de la bouche, souffle qui n'a pas de consistance. Ceux qui connaissent l'arabe, le meilleur analogue en arabe, c'est Hebel, qui a à peu près le même sens. Quelque chose de privé de sens. Et donc le roi David avait dit, l'homme ressemble à un souffle. Vélo pirage, le osé Hebel. Mais le roi David n'a pas expliqué à quel genre de souffle l'homme ressemble. Vous suivez le mélange. Je continue. Il ne révèle sur le tanou. Si c'est le souffle d'un four, ça veut dire le souffle chaud qui sort d'un four, chez le kira ou d'un ancien four, il y a une effectivité. Ça veut dire ce révèle, ce souffle qui sort du four, a un tachlit, a une finalité, peut avoir une finalité, il peut chauffer une marmite. Donc, ce n'est pas un révèle absolu, c'est un révèle qui a un mamash, qui a une effectivité. Bachelomo, ou Pirach, le roi Salomon est venu et a expliqué à quel souffle ressemble l'homme, à révèle Avali, à un souffle de souffle. Vous voyez, quand ça s'approche un peu plus au contenu de l'expression vanité de vanité, c'est-à-dire c'est une vanité de vanité, un souffle de souffle. Et c'est quoi? Alors, Midrash suivant. À quoi l'avait la valide? Maï révèle la valide. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha, c'est un ancien nom de Rabbi Yoshua ben Korcha. Vous suivez sur quoi? Macha le Adam, chez.
C'est chauffé.
Chivak de l'autre. Zol le Mala Mizo. Zol le Mala Mizo. Voilà. Voilà ce que dit le Midrash. Ça ressemble à qui ? Ça ressemble à un homme qui a installé 7 marmites l'une au-dessus de l'autre. Et en dessous, il y a un feu. Alors le souffle qui sort du feu chauffe la première marmite. C'est un souffle qui a une effectivité. Il chauffe la marmite. Le souffle qui sort de la première marmite chauffe la deuxième marmite. C'est un réveil, mais qui a aussi un sens jusqu'à la septième. Mais le souffle qui sort de la septième marmite, lui, c'est un révèle havali. C'est un souffle de souffle. Voilà donc le raisonnement de l'Ecclésiaste. Si tu admets que le monde est vanité, sache que moi je t'attends à la vanité des vanités, et pas aux vanités partielles avec l'abri du chèque. Vous vous rappelez de ça? Enfin, avec l'abri de quoi que ce soit. Et alors, Rachid, lui, mais vous n'avez pas, le texte ici, Rachid, lui, dit que l'Ecclésia a fait allusion à cette vanité correspondante aux sept jours du commencement. Vous l'avez dans le Rachid ? Montre-moi aussi. À quel Vous avez dans Rachid, avec la valine, à Marc Coelho. Coelho, Coré Kaga Réomer, Al Koye Tsira Shivatime Bereshit, Cha Koravel, Shela Valim. Le midrash sur lequel se base Rachid dit ceci, c'est que l'ordre de chacun des jours du commencement, le Shabbat y compris, on trouve un verset qui nous montre qu'à certaines conditions, cette heure va perdre sa valeur. Par exemple, le jour du Shabbat, Mechaleleha Yom Motiumat. Ça veut dire que le monde est plein de valeurs, mais ce sont des valeurs qui se perdent elles-mêmes, qui peuvent se perdre elles-mêmes. J'ai longtemps réfléchi à l'analyse de ces midrashim. Voilà l'explication que je vous propose et qui me semble expliquer à la fois l'ensemble de ces midrashim. L'histoire du monde nous est présentée par le récit de la Torah comme la succession d'étapes, chaque étape menant à une étape suivante. Tant qu'on est occupé au moment historique d'une étape X et qu'on n'a pas la visée de l'étape qui viendra après, alors on est pris par ce sentiment d'angoisse pessimiste que peut-être ça ne sert à rien, parce qu'on ne voit pas à quoi ça va servir. En d'autres termes, le premier jour, je sais à quoi il sert que si je suis dans le deuxième. Quand je suis dans le deuxième jour, alors le premier jour a pris son sens, parce que le premier jour a mené au deuxième jour. Le troisième jour, c'est la même chose. Le troisième jour donne un sens au deuxième et au premier. Est-ce que c'est clair ? Celui qui est à la pointe de l'histoire et qui n'a rien devant lui, lui peut dire qu'il est à la septième marmite, le souffle qui sort et qui va nulle part, qui va en néant. C'est là que le roi Salomon définit dans l'Ecclésiaste ce que serait la véritable philosophie pessimiste. C'est-à-dire celui qui a expérience que tout son être est au passé et qu'il n'y a aucun avenir. C'est-à-dire celui qui n'a pas l'expérience, la perspective ou la dimension messianique. Ça veut dire que si les sept jours du commencement ne mènent pas à un huitième, alors tout est vanité. Le septième y compris. Mais si le septième mène à un huitième, rien n'est vanité. Tout est compté et tout est jugé parce que chaque étape mène à la suivante. Et ça se récapitule un jour dans l'autre. Voilà, je crois, l'essentiel de ce qu'il faut. Donc vous voyez que quelle est la méthode de l'Ecclésiaste ? Comment il contredit la philosophie pessimiste ? En prenant au sérieux le postulat de la philosophie pessimiste, en le poussant à la totalité du doute, si j'ose dire. D'ailleurs, peut-être qu'il y a un parallèle à faire sur la méthode du doute chez Descartes. D'ailleurs, c'est que le doute n'est sérieux que s'il est total. Et que pour sortir du doute, il faut sortir d'un doute total. Là aussi, c'est assez analogue. Je ne sais pas si Descartes a lu l'Ecclésiaste, mais ce que je peux dire, c'est que l'Ecclésiaste n'a pas lu Descartes. En tout cas, ça veut dire que si on se situe à un septième jour qui n'aurait pas de huitième, alors vraiment tout est privé de sens. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a le doute total. Et par conséquent, on voit bien que les midrashim veulent nous mettre en évidence précisément ce qui se passe entre Rosh Hashanah Rabbah et Simchat Torah. Est-ce que c'est clair ? Et ça vous fera comprendre la suite des midrashim. Par exemple, sur le verset qu'on a cité, El Chadash Tachata Shemesh, Aval le Marla Me Hashemesh, Yesh Chadash. Le Marla Me Hashemesh, Yesh Yitro. Il n'y a pas de surplus à l'effort de l'homme sous le soleil. Mais au-dessus du soleil, il y a un surplus. Vous voyez comment il faut se dégager du langage pastiche de la vie auquel on est tellement habitué. Il y avait un nouveau sous la calotte des cieux, je ne sais pas comment on traduit ça, un nouveau sous le soleil, alors que le texte voulait dire tout le contraire. À la fin du contraire. Il veut dire quelque chose de beaucoup plus ample. Sous le conditionnement de l'être de nature, il n'y a effectivement pas de dégagement d'espérance, mais au-delà, oui. Pour retrouver notre langage, ça veut dire que le septième jour mène à un huitième. Ce qui est toujours, d'après dans la symbolique de la tradition, le jour messianique. Donc je crois que je vais dire un peu l'essentiel. La différence entre Shmira Aseret qui s'appelle Simchat Torah et Matan Torah, à chaque fois, elle est reçue, elle est acceptée. Et je vais terminer en reprenant ce parallèle que nous avons mis dans le calendrier. Comme nous l'avons vu, c'est le 6 Sivan, c'est d'une certaine manière le 8e jour de Pessah, mais décalé de 7 Sivan. Après le 6 Sivan, où il y a eu la promulgation des 10 commandements, Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours. Le 39e jour, le peuple s'est rassemblé pour obliger Aaron à faire l'idole du Vedon. La veille du 17 Tammuz, c'est le 16 Tammuz. Et normalement, s'il n'y avait pas eu cette catastrophe de la faute du Vaudor, le 17 Tammuz aurait été un jour de grande fête. Ça aurait été Simchat Torah, c'est-à-dire le jour de la Kabbalat Torah, de la réception de la Torah. Matan Torah, c'était le 6 Sivan. 40 jours après, la Torah aurait été reçue. Elle a été donnée 40 jours avant, le 6 Sivan, Shavuot, elle aurait été reçue. Le 17 Tammuz, ça devait être une fête. C'est ce que dit d'ailleurs le texte, je vous donnais la référence de la paracha de Kitissa, un verset qui peut rester assez mystérieux, mais quand Aaron dit au peuple qui se rassemble contre lui pour l'obliger à faire une idole, il dit Hav, Hav Lachem Maha. La fête pour Hachem, c'est demain. Le lendemain, c'était le 17 Tammuz, le 40e jour, Moïse devait redescendre de la montagne avec les tables de la loi et toute la Torah. Or, cette catastrophe de la faute du Vaudor a reculé de 2 fois 40 jours la réception de la Torah. Comme vous le savez, 40 jours après, pendant 40 jours, Moïse a prié pour que le peuple soit pardonné, s'il y a un sujet pour lui-même, la partie du peuple qu'il avait fauté, c'est-à-dire le Ereva, pas Israël lui-même, mais c'est un autre sujet. Et puis, on arrive au premier jour. Et 40 jours du premier jour.